Salut les marques et les smarts et bienvenue sur Catch Up, le podcast qui transpire le catch, qui suinte, qui sue le noble art. Ici, chaque semaine et plusieurs fois par semaine, on décortique, on analyse, on critique les shows de la WWE et consorts. Je suis Raphaël et ce soir est un soir exceptionnel puisque nous analysons le pay-per-view du Greatest Wrestling Match Ever. Il me fallait donc le Greatest Tag Team Partner Ever. Je suis allé chercher loin dans le coffre à catch. Il était enfermé, il avait perdu le code. C'est l'ami Papy. Comment tu vas, Papy?
Bonjour les petits enfants. Ah, merci Raphaël. C'est gentil de me sortir de mon coffre là. J'étais coincé dans le noir. Je n'y voyais goutte. Et donc, je suis heureux que tu me tendes la main.
Ah, mais toujours, toujours. J'avais les clés du code et puis... Et puis dans le coffre à catch, je sais qu'il y a souvent du Big Show et du Great Khali, donc en général on est un peu serré, mais je vois que tu as l'air en pleine forme de retrouver la lumière.
Ah ouais, là je suis chaud patate, là, prêt à analyser ce Greatest Royal Show de l'histoire.
C'est vrai que tu me fais remarquer par cette petite blague du Greatest machin que le Covid nous aura au moins évité pour le moment le traditionnel show du printemps en Arabie Saoudite, mais bon. On ne sait pas encore ce qui nous attend cette année.
Ouais, je crains que ce soit remis, hein. Mais malheureusement, et que ça revienne assez tôt, vu le pognon que ça génère.
Oui, ça c'est fort probable. Mais en tout cas, pas de ça ce soir. Non, 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 on n'est pas à Dubaï. On n'est pas chez les métèques, là, comme dirait Monsieur Trump. On est chez les Floridiens. On est au Performance Center de la WWE. On y est, on y reste depuis 3 mois. Backlash, donc on va backlasher, j'espère que t'es prêt au clash, Papy.
Ah, ça va clasher dans tous les sens ce soir.
En plus, nous étions tous les deux pour le SmackDown du Go Home Show, on a fait nos pronos, on va voir qui avait raison, qui avait gagné parmi nous.
J'espère que ça sera serré, je pense. Hein.
Ça sera serré, je pense. J'espère que vous avez fait vos pronos vous aussi, en tout cas c'est parti. Il y avait un kick-off dans lequel on a pu découvrir ce qui nous avait été volé vendredi dernier, c'est-à-dire le nouveau clip de Miz & Morrison, Hey Hey Ho Ho. Superbe clip faisant référence au plus beau clip de karaoké des années 70-80. Est-ce que tu as kiffé ce petit passage avec apparition de guitare électrique et château
C'était magnifique, leur voix était, c'était, on aurait dit, les voix des anges. C'était tellement beau, j'ai failli verser une larme.
J'ai eu la main, pardon. Ouais, moi j'ai versé.
Ah, t'as versé?
Ouais, j'ai versé ma petite goutte. Mais, donc c'était sur Braun Strowman, évidemment, on aura leur match plus tard dans la soirée. En kick-off, on a quand même eu un affrontement, c'est le titre US, pourtant un titre qui était bien buildé et bien construit, comme tu le faisais remarquer.
Oui.
Kick-off, donc Apollo Crews, le champion, contre Andrade, accompagné d'Angel Garza et de Zelina Vega. Kevin Owens débarque pour équilibrer un peu la sauce et il se met aux commentaires pour commenter. D'ailleurs, c'est ce qu'il fait dès le début, il se met à commenter ce qui se passe sur le ring, les actions, les clés de barras, les machins, en disant « les mecs, je suis un peu en train de faire votre place aux autres commentateurs ». Donc, assez vite, on va à l'extérieur du ring. Andrade est projeté et tombe de dos sur la rampe en métal qui mène à sous le Titantron. Apollo Crews va placer sur le ring une énorme belly-to-belly suplex qui envoie Andrade dans le coin. Plus tard, Andrade lui fera un joli saut depuis la troisième corde pour choper la tête d'Apollo et lui faire un gros DDT, mais ce sera near fall. Apollo Crews repart en domination, il fait son enchaînement traditionnel, c'est-à-dire le standing moonsault, le standing shooter star press, Angel Garza monte sur le ring pour distraire l'arbitre, Kevin Owens sort du commentaire et lui place un stunner, pendant ce temps Apollo Crews place sa powerbomb et il l'emporte clean, bien aidé par son nouveau copain canadien avec qui il se fait de gros câlins à la fin. Les latinos, eux, ma foi, ont fait clan, hein, pas de tension supplémentaire, mais... pas de victoire.
Ben oui, et pas de victoire. Bon, je vais pas te cacher, je l'ai pas regardé ce match parce que comme on a à mon habitude, je ne regarde pas le pré-show.
Ah, c'était donc et ça.
Et donc j'ai appris juste avant le main event que j'avais raté le match pour le titre US en fait. C'est juste avant, ils ont dit ah au fait, au cas où vous l'auriez pas vu, le titre US, c'est notre ami Apollo qui a conservé. Donc déjà, j'ai raté le match. En plus, j'avais parié Andrade, c'est Apollo qui gagne. Bref, la totale. Je suis donc extrêmement déçu par ce match. Et voilà, je trouve que c'est le pire match de l'histoire. Voilà, j'ai rien d'autre à dire.
D'accord, merci Papy pour cette analyse clivante mais sincère. Pour ma part, Je trouvais la rencontre agréable dans le sens où effectivement en kick-off ça peut être l'occasion de leur donner un peu plus de temps d'antenne. Étonnant quand même de retrouver cette affiche à ce niveau-là. On continue de voir Kevin Owens qui bosse bien pour les copains, qui a été bon aux commentaires. Ça m'a un peu surpris qu'il rappelle son passage US Champion en disant qu'il avait été The Face of America, parce qu'on sait qu'il n'était pas très fan en fait de cette gimmick Face of America. C'était d'ailleurs pas terrible, il faut bien le
Ah
reconnaître.
oui, il marchait sur sa tête qui était dans le ring, je me souviens.
Oui, c'était ça. Donc, voilà, finalement assez classique, un match qui aurait pu être en weekly. Apollo conserve et bon, ça a été vite fait, bien fait, mais on va passer au main show pour que Papy sorte un petit peu de sa frustration. On va voir si tu as bien pronostiqué l'opener du show principal.
Ah.
Donc, c'était un triple threat tag team pour les Women Tag Team ceinture. Donc, on a les championnes qui sont donc Bayley et Sasha Banks. Les challengeuses anciennes championnes qui sont Alexa Bliss et Nikki Cross, et les challengeuses anciennes championnes qui sont les Iconics, Billie Kay et Peyton Royce. Alors, première surprise, c'est un triple threat tag team et elles ont le droit d'être une de chaque équipe sur le ring. Hein, tu sais, d'habitude, on peut taguer son. Il n'y en a que deux sur le ring et on peut taguer son adversaire, mais là non, non, c'est pas possible.
Un vrai triple threat.
Un
Du
vrai
coup, c'est pas
triple.
mal ça.
Ouais, il fallait attendre les filles pour qu'on ait enfin un vrai triple threat. Bon, par contre, le contenu du match, j'ai pas noté grand-chose personnellement. Ça s'est pas mal frité dans tous les sens. On a eu parfois les 6 qui se font front au milieu du ring. Ça tourne assez vite. En un moment donné, Bliss qui a un bon momentum, qui arrive à placer pas mal de prises et d'envoyer un petit peu tout le monde dehors. À un moment donné, Peyton Royce qui est dans le ring. Sasha Banks et Alexa Bliss sont en train de se taper hors du ring, juste autour des cordes. Peyton Royce les pousse et les fait tomber sur Bayley qui chute. On remonte sur le ring. Alexa Bliss, toujours en forme, place son Twist of Bliss sur Peyton Royce et s'apprête à placer le pin, mais Sasha Banks la pousse et fait un roll-up. Et donc, il ne pouvait pas en être autrement. Women Tag Team Championship, victoire de Sasha Banks sur roll-up et donc victoire de Bayley aussi. Qui reste ainsi Bayley to Belt, c'est fini pour elle ce soir, elle n'aura pas besoin de défendre son titre féminin de SmackDown, donc voilà, pas de dissension, pas de dispute, pas de changement de titre, pas d'intérêt ou aussi quand même un petit peu papy.
Si, bah, après l'intérêt, on l'a largement éventé, vu qu'on l'a dit, c'était que globalement, ce soit un vrai type triple threat. C'est ce que vraiment les matchs où tu as trois équipes, mais deux dans le ring, ou quatre dans les deux dans le ring, enfin bref, quand tu dois taguer ton adversaire, ça devient généralement le bordel. Donc, ça, c'est pas plus mal qu'ils aient fait un vrai triple threat. Après, c'était pas mauvais. Enfin, moi, en tout cas, j'ai pas trouvé ça mauvais. C'était pas génial non plus. Je me souviens d'un dive de Peyton Royce à travers les cordes, notamment, qui était pas mal. Après, voilà, c'est un opener gentil et ça a pas chauffé trop le public. Mais bon, comme il n'y a pas de public, ça allait. Mais sinon, ouais, j'ai pas de mauvais points à donner ni de bons points vraiment. Si le bon point c'est pour l'idée d'avoir mis les trois filles en même temps dans le ring, c'est bien, ça donne quand même plus de dynamisme que deux et quatre qui regardent quoi.
Ouais, ça, je suis d'accord avec toi, c'est quand même plus sympathique. Après, le match n'était pas désagréable, c'est juste qu'effectivement, comme ça tourne très vite, c'est un peu difficile à décrire et à prendre des notes, mais parce que voilà, bon, Sasha Banks a eu un petit moment, Nikki Cross aussi, ouais, Peyton Royce et Billie Kay ont travaillé à deux, mais c'est ouais, voilà, c'est rythmé. Et bon, ma foi, par contre, la victoire des championnes qui conservent ne fait pas trop avancer d'intrigue pour le moment, mais à voir, hein, ça peut péter à tout moment, c'est ça qui est. Restez attentif.
C'est les placards, donc quelque part, c'est. Alors laisse les ceintures le temps de trouver, de creuser une histoire derrière, je pense.
Oui, je pense aussi, oui. Oui, l'histoire, on verra ce que ça donne. Mais pour le moment, Bayley et Sasha Banks, toujours copines, toujours championnes. Ensuite, on va passer chez les hommes et on va passer au match que l'on attendait beaucoup. Toi et moi, on en a parlé vendredi puisque ben, c'est le match qui fait partie du segment qu'on a préféré lors du dernier SmackDown, la fameuse analyse d'urine de Jeff Hardy. Si vous n'avez pas vu ça ou que vous n'en avez pas entendu parler, courez écouter notre analyse de SmackDown. On a
Oui.
adoré. C'était de l'or, hein, papy, ça.
Ah ça se buvait comme du petit lait, hein. Franchement, c'était magnifique.
Ah oui, c'était un petit délice. Ouais, c'est vrai qu'on a bien savouré ce moment. Donc voilà, maintenant il est temps de se mettre sur la tronche quand même, du vrai catch entre ces deux quadragénaires un petit peu cassés de partout. Jeff Hardy contre Sheamus, ils ne s'aiment pas, voilà, l'un a accusé l'autre quand même d'avoir failli attenter à la vie d'un de leurs collègues. D'ailleurs, on n'a pas de nouvelles hein, de cette affaire policière, ils ont visiblement, l'un est innocenté et l'autre on ne sait pas.
Voilà. Et l'autre n'est pas coupable, voilà, comme ça c'est, ça, c'est clair.
Voilà, je pense que c'était juste une histoire de frein à main mal serré, probablement.
Oui. Et c'est peut-être Elias qui s'est écrasé lui-même, au final.
Oui, je pense. C'est possible.
Ah là, comment il s'appelle, notre ami Diesel.
C'est possible aussi, oui. Bref, pour commencer le match, l'Irlandais est énervé, il essaye un peu d'humilier Jeff Hardy, de lui déchirer son t-shirt, il le balance un petit peu dans tous les sens, il commence par dominer avec la force de ses poings, Sheamus. Jeff Hardy se réveille, à l'extérieur du ring, il court, il prend appui sur l'escalier, il fait un saut, là, une espèce de clothesline. Sheamus ensuite envoie Jeff Hardy sur le turnbuckle. On a une domination de Sheamus. Ouais, il lui fait un petit peu tout là. Il lui envoie une clé de cou. Il essaie de le soumettre au sol. Il lui envoie des coups de genou. Il en profite même pour engueuler Michael Cole parce qu'on ne sait pas trop ce que Sheamus reproche à Michael Cole, mais il l'aime pas trop. Bon, on peut le comprendre. Jeff Hardy se réveille en plaçant une back suplex. Il fait son whisper in the wind et ça fait near fall. Sheamus tente le bro kick qui est évité. Jeff Hardy s'apprête à placer une Swanton Bomb. Il se met sur le turnbuckle, mais Sheamus le fait. Chute. Il le récupère pour faire son White Noise, qui avait été son finisher en courte période, mais là, c'est plus son finisher, donc du coup, ça marche pas. Ça fait juste Near Fall. Sheamus tente sa prise de soumission, le Cloverleaf, mais Jeff arrive à atteindre les cordes. Il le relève dans les cordes, il lui place son 10 beats, c'est 10 coups sur la poitrine, donc il lui fait vraiment, il fait tout ce qu'il a dans son arsenal, Sheamus. Ça suffit pas, Jeff Hardy revient en force, l'enchaînement Twist of Fate, Swanton Bomb, mais Sheamus a le pied sur la corde, donc là aussi on brise le compte. On repart dehors, Jeff Hardy court sur la barrière et s'élance sur Sheamus, mais boum, il prend un énorme bro kick dans la... On revient sur le ring... On attend que Jeff Hardy se relève, on lui remet un bro kick, et 1, 2, 3, victoire de Sheamus, sans coup de vis, hein, à la force, à la gagne.
Bah, bien propre. Hein.
Bien propre, donc est-ce que, voilà, on espérait, on attendait de voir un peu ce que donnaient ces deux-là sur le ring, plutôt de beau reste.
Ah, plutôt bien, ouais, là franchement c'était... c'est dans la lignée de la construction en fait. On s'attendait à ce qu'ils se mettent enfin des grognons, puis ils sont mis des grognons. Et c'était vraiment ça. Moi je trouve ça sympa comme match. Effectivement, il y a un moment, il y a une petite chute de Hardy qui est pas très assurée, mais le reste du temps c'est en fait. Je me suis dit en regardant ce match et aussi en regardant plus tard le main event. Quand tu as deux mecs comme ça dans le ring, finalement c'est un peu une leçon pour tous les jeunes du Performance Center qui sont autour en fait. Parce que là, ouais, ils ont fait du match classique avec c'est propre, tu as des temps forts, des temps faibles, tu as un finish bien amené avec tu penses que Hardy va gagner, hop, il y a le pied qui sauve et derrière tu as un double pro kick. Donc plutôt satisfait de ce match. Pour le coup, c'était un bon match qui était bien dans la lignée de la construction de ce qu'on attendait. Et par contre, surprise de la victoire de Sheamus, je pensais, il me semble que toi aussi, que c'était tout était fait pour mettre Jeff Hardy en haut de la fiche et qu'il allait gagner cette rivalité. Puis au final, c'est Sheamus qui gagne en plus clean. Donc Sheamus reste très fort. Donc très bien, moi ça me satisfait. C'est un gars que j'aime bien, Sheamus. Donc content du match, content du résultat.
Ouais, je le partage ton impression. Moi, j'étais assez content. C'est marrant. Je me suis fait la même remarque en fait, parce que voilà, la foule de l'arène du stade, du stade de la salle, c'est les petits rookies, les petits débutants du Performance Center. J'ai pensé à ça. Oui, à plusieurs reprises déjà. C'est marrant. Ils sont kiffés à fond. Donc, on sent qu'ils mettent tout leur cœur à faire des chants, des This is awesome, des Let's go Sheamus, Let's go Jeff Hardy, et tout le long de la soirée. Donc, ils sont à fond. Et puis, ouais, ça doit être rigolo pour eux. Enfin, rigolo. Ça doit être inspirant de se dire, tiens, dans 5 ou 6 ans, ça pourrait être notre tour. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as remarqué, mais il y en a qui sont filmés un peu plus souvent que d'autres, je trouve, là, des petits jeunes du Performance Center. Peut-être qu'ils essayent de nous les mettre en avant.
Peut-être des têtes reconnaissables. Il y en a quelques-uns qu'on voit quand même sur NXT. Là, j'ai repris depuis quelques semaines. Il y a la fille avec les cheveux verts. Il me semble qu'on voit de temps en temps. Donc, il y a aussi. Il y a pas mal de filles, généralement, qu'on voit sur NXT. Donc. Ouais, c'est peut-être l'occasion aussi de leur montrer, de montrer leur petite tête, pour qu'on s'habitue à les voir.
Clairement, mais en tout cas, là, ils ont pris une bonne leçon de catch, je pense. Moi, j'ai beaucoup aimé l'affrontement. Mais en fait, la victoire de Sheamus qui m'a surpris, c'est vrai. On a eu une info aussi ce soir. On a eu une info que confirmée que le prochain pay-per-view dans un mois s'appelle Extreme Rules. Donc, je pense
Il y aura la belle.
Ouais, je pense pouvoir faire un prono qu'il y aura. Il y aura un match là, il y aura une stipu entre ces deux. Mais voilà, on est convaincu par le rendu sur le ring. Ils ont 40 ans et quelques tous les deux. Ils ont tout gagné tous les deux. Mais ils ont encore envie de nous montrer des trucs et ça me fait plaisir. Et même si je pense que Jeff Hardy est calé pour être celui qui sera mis en avant, ben oui, ça fait plaisir de se dire que Sheamus n'est pas pourri encore, qu'il n'est pas foutu. Et qu'il a gagné clean, ouais, parce que ben, quand même, voilà, il envoie des brokicks, il envoie les 10 beats. Ben, il est toujours stiff, hein, l'Irlandais.
Ouais, une belle victoire bien convaincante.
Ouais, ça serait même... bon, c'est pas la même brand, mais ça serait même un gars que j'aimerais bien voir contre Drew, là aussi. Hein. Il y aurait des...
Ouh là 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 là. Hein, ça va du parpaing, là.
Voilà. Claymore, Brock Kick, hein, les deux en même temps, là, ça... Boum. Je sais pas si c'est possible techniquement, mais ça serait un beau match. Nous n'y sommes pas encore. Ça, c'est du fantasy booking. Mais merci,
peut-être
Jeff.
Survivor Series. Hmm, peut-être Survivor Series, qui sait.
Ah oui, pourquoi pas, oui, on y... Donc voilà, bah écoute, le segment pipi s'est transformé en match de qualité. Donc on va pas bouder notre plaisir, loin de là.
Non, jamais.
Jamais. En attendant que tout cela soit réglé, peut-être dans un Extreme Rules match, on croise Miz et Morrison avec Kayla Braxton, qui leur apprend cette nouvelle dans le match du titre universel qu'ils ont ce soir en 1 contre 2. Voilà, ce ne sera pas des co-champions, c'est vraiment celui qui pin Braun qui gagne. Et bon, ils disent ok, si c'est comme ça, c'est comme ça. Et ils croisent Otis avec sa mallette, qui nous rappelle que bah, il a la mallette et que donc peut-être qu'il peut cacher ce soir. Est-ce que tu t'es dit que c'était crédible, que c'était possible ça ce soir ?
Non, je pense qu'ils l'ont juste sorti pour montrer sa tête, mais j'avais aucun espoir qu'on le voit plus tard.
Oh yeah ! Bah écoute, on va laisser mariner nos auditeurs du monde entier pour savoir si on verra bien Otis ou pas plus tard. Suspense. Ce que j'ai trouvé mignon, c'est qu'il a dit qu'il allait cacher ce soir, et puis Mandy Rose, elle a traduit, elle a dit voilà, ce qu'il essaye de vous dire, c'est qu'il va cacher ce soir.
Voilà. Ouais, la piche, la petite pêche, elle n'est pas très fut-fut. Mais elle essaie, elle fait des efforts.
Elle fait des efforts, c'est bien. On peut lui féliciter, on peut la féliciter pour ça. Parce qu'on verra qu'il y a d'autres blondes ce soir qui n'ont pas été aussi
habiles.
Aussi habiles, ouais, exactement, c'est le bon mot. Alors on n'y est pas encore, on va passer chez les femmes, mais elles sont pas blondes. Il y en a une qui est samoane et une qui est japonaise, le Raw Women Championship. Donc Asuka contre Nia Jax. On a l'affrontement qu'on a un peu toujours avec Nia Jax, c'est-à-dire que Nia Jax, elle traîne son adversaire un peu dans les quatre coins du ring, elle les jette dans tous les sens, mais Asuka, elle arrive à placer son octopus un moment, sa prise de soumission, Nia Jax se dégage, elle lui envoie une grosse clothesline. Bon, Nia Jax, voilà, elle domine par la force, mais de temps en temps, elle se fait contrer. Voilà, elle prend une guillotine quand elle est trop près des cordes. Et à un moment donné, elle fanfaronne un peu trop, Naya. Elle dit « Ouais, elle est où ta copine Kairi Sane ?» Alors là, Asuka, elle s'énerve. Elle lui fout des kicks, des mandales, des coups dans la tronche, tout ce que tu veux. On finit par la foutre dehors à Nia Jax. Ça continue à bastonner. L'arbitre compte 7, 8, 9 et 10. L'arbitre compte jusqu'à 10. Donc bah là, nos pronos sont un peu à l'eau, et mon bon papy qui voulait un match assez rapide et une victoire nette de Asuka, je suis bien peur qu'on soit parti pour revoir ces deux-là s'affronter sur le ring. Et est-ce que ce petit match qui n'a pas duré très longtemps t'a donné envie de revoir ça encore plus tard ?
La catastrophe, le match lui-même n'est pas bon, parce que ça raconte rien, hormis peut-être... la fin avec Asuka qui s'énerve quand on parle de sa copine, mais sinon le reste du match n'a rien à raconter, parce que c'était des séquences où, enfin, si encore t'avais Naya qui était en mode invincible et Asuka qui chercherait par tout moyen de la faire tomber ou faire ci ou faire ça, mais c'est même pas ça en fait. Il y a des segments où elle est dominée, puis après elle redevient invincible, puis elle est redominée, puis elle redevient invincible. Ouais. C'est pas intéressant. Alors en plus ça se finit par une décision catastrophique qui va nous obliger à avoir une revanche. J'ai apprécié beaucoup de matchs féminins ces derniers mois, ces dernières années, mais alors sur ce pay-per-view, j'ai trouvé une sacrée différence. On parlait des gars qui ont montré l'exemple aux jeunes du Performance Center, les filles c'était bien en dessous quand même en termes de niveau, et l'opener qui était un peu sympa, mais pas d'un niveau super haut. Mais alors là, celui-là était ni sympa ni haut. Ouais, c'était pas bon, quoi. C'est à ce moment-là du show, je me suis dit, oui, j'espère que la suite sera meilleure.
Oui, t'as raison. Bah, on a fini avec les filles pour ce soir-là. Il n'y avait pas de match pour le titre de SmackDown, on rappelle, et ouais, c'était pas très bon. Alors moi, je l'ai déjà dit et répété, hein, mais Nia Jax, je trouve que le personnage, la gimmick, entre guillemets, de Monster et le contenu in-ring ne m'intéresse pas du tout, le contenu au micro non plus, donc je m'attendais un peu à ce que ça soit difficile, et ça l'a été. Alors le seul peut-être truc positif, c'est que si vraiment on va jusqu'à Extreme Rules avec ça, mais ça me fait un peu chier parce que Charlotte traîne toujours dans les parages et ça m'embête un peu que
ça soit... Triple threat, peut-être.
Ouais, triple threat, mais je me dis qu'au moins, voilà, avec Nia Jax, même si elle est dangereuse et qu'elle pète souvent en deux ses adversaires, si on a une stipu qui autorise un peu des kendo sticks ou des trucs comme ça, ça peut être
Stermas. Un match d'escalier. Ouais.
Non, mais ça peut être un peu mieux que juste du pur wrestling. Entre les cordes, parce que là c'était pas terrible, donc ou un false count anywhere ou un truc où voilà, Nia Jax va être envoyée passer à travers une table ou des chaises ou je ne sais quoi, ça peut.
Mais dans ce cas-là, il faudrait qu'il la build vraiment plus forte en fait, parce que là, c'est, je sais pas comment on pourrait dire ça, un espèce de moelleux au chocolat, là, tu as l'impression qu'elle est forte, mais c'est mou à l'intérieur,
ouais.
C'est, je sais pas, ou un fondant plutôt, bref, c'est. J'ai revu des vieux manias l'autre jour, il repassait ça sur l'équipe. Et un mec qui a un monster, tu sais, normalement pour le buder, tu dois le faire, quelqu'un qui tient debout tout le temps, qui t'arrive pas à faire tomber, que tu sais, t'enchaînes les clotheslines et les kicks pour la faire tomber, mais elle tombe jamais. C'est comme ça que tu build quelqu'un de monstrueusement fort. Là, c'est, elle est forte par intermittence, quoi, donc ça la rend encore moins intéressante, quoi, je trouve.
Ouais, je trouve qu'elle a vraiment un personnage de, comment dire, qui sait pas qu'à tuer en fait. C'est-à-dire qu'elle est forte, elle est énorme, elle est monstrueuse, mais genre souvent elle rate ses leg drops là, donc elle tombe boum sur les fesses et elle reste 3 heures assise comme ça à avoir mal et donc du coup elle prend des coups de pied dans la tronche. Ouais, c'est un drôle de personnage qui je sais pas si elle aura beaucoup d'avenir. Alors on sait qu'elle a un pédigré familial important, mais elle, bon. Pour le moment, elle n'a pas trop brillé et je n'ai pas beaucoup d'espoir que ça s'améliore.
Ouais, puis je crois qu'elle n'est pas si jeune que ça en plus, d'ailleurs, parce qu'elle est venue tard sur le catch. C'est peut-être aussi pour ça qu'elle a un peu de mal, hein, pour des trucs qui semblent basiques.
C'était son backup plan à elle aussi, ouais. C'est Parcoursup qui l'a amené là.
Voilà. Elle voulait faire, je sais pas moi, astronaute. Mais non. Bah oui,
peut-être. Ouais, elle n'a pas réussi. Elle apparaît ici et bien on verra si elle aura droit à une nouvelle chance. C'est malheureusement possible au vu de l'issue du match. La suite du pay-per-view, c'est ni plus ni moins que le Universal Championship. Donc Miz et Morrison viennent sur le ring. Ils nous lancent leur nouveau clip. Heureusement, on l'a déjà vu en pré-show, mais là, il est cassé par Braun Strowman. Et Braun Strowman arrive et c'est parti pour le combat. Alors ils sont 2-1 quand même et le Miz en profite pour un peu distraire Braun qui commence à se prendre des coups par John Morrison. Un Morrison aérien, un Morrison panthère ce soir qui évite toutes les attaques de Braun. Il passe en dessous, il zip, il passe au-dessus, hop, il fait des pirouettes, etc. Quand ça vient le tour du Miz, le Miz a un petit peu plus peur et il prend un peu plus cher hein, quand même. Il est envoyé dans tous les sens. Mais Morrison est fidèle, il vient l'aider parce que bon, ils sont censés taguer, mais c'est vrai qu'à plusieurs reprises, ils vont se sauver l'un l'autre de manière un peu illégale. John Morrison va faire un suicide dive sur Braun Strowman, ensuite ils travaillent en duo, ils se mettent à deux pour lui faire un DDT, ils envoient Braun Strowman prendre l'épaule dans le poteau, et ils tentent même, ils arrivent à passer une espèce de finisher amélioré, c'est-à-dire le skull crushing finally du Miz, avec Morrison qui saute par-dessus pour envoyer en plus un... presque un curb stomp là, et Morrison tente le tomber, 1, 2, et le Miz l'en empêche, puisque évidemment si Morrison gagne, c'est lui le champion, Miz en empêche, mais il est terrorisé par son propre geste en fait, comme nous le disent les commentateurs, hein, c'est un réflexe de catch ça, c'est voilà, tu vois un pin qui va te faire perdre, tu le retires, mais le Miz est de suite dégoûté de son propre geste, il s'excuse, il dit à Morrison, non, vas-y, il le laisse faire. Donc il rattrape un peu sa bêtise, mais malheureusement c'est trop tard. Braun Strowman kick out. Et puis bah, là il va se réveiller, il va s'énerver un petit peu, il va défoncer tout le monde. Il va mettre un power slam sur John Morrison et il gagne. Donc c'était court, c'était comment dire. Bah je vais te laisser la parole. C'était pas non plus du comédie voilà, wrestling. Ouais.
Je pense que de toute façon on va faire assez vite. La morale de l'histoire, c'est il faut retenir que quand tu as ton copain qui est en train de piner, bah tu l'arrêtes pas en plein milieu, sinon tu t'en mords les doigts derrière. Mm. Bon, sinon voilà, c'était court, c'était exactement ce qui était attendu. Alors en plus avec le segment d'avant-match qui disait attention, hein, il y en a qu'un seul des deux qui va être champion. Ça a éventé un peu le petite semi-trahison finale. Donc, bon. Ah, c'était court, mais pas mauvais. C'était déjà mieux que le match d'avant. Parce que je trouve que, pour le coup, bah, Strowman, il a assumé un poil plus son rôle de monstre que Nia Jax. Donc, voilà, passons à autre chose, que c'était une passade pour cette rivalité.
Ouais, bon, c'est sûr. Moi, je suis plutôt satisfait, effectivement. C'est vraiment tout à fait le registre de Braun Strowman à la WWE. C'est un peu tragique, mais c'est ça. C'est ce genre de match un peu gag, un petit peu... oui, comme le fameux tag team qu'il a gagné à WrestleMania avec un gamin de 10 ans. Mais j'ai trouvé que c'était pas mal exécuté. Déjà, Morrison a été buildé fort. Hein. Il a fait quelques sauts là, sur les troisièmes cordes en envoyant des kicks dans la tête de Braun Strowman. Et il est pas mal.
Dommage qu'il prenne le tombé, quoi.
Dommage qu'il prenne le tombé, mais limite, j'aimerais bien que, alors peut-être pas Extreme Rules, mais dans un SmackDown entre-temps, il lui build un vrai 1 contre 1 contre Strowman.
Ah et bah, un full continuer avec Morrison, pour le coup, là, c'est super, ça. Hein.
Ouais, t'as raison, ouais, ça serait une belle affiche. On aurait de quoi faire des beaux matchs, là, si Bray Wyatt compte rester encore un petit peu à la maison pour pouponner, on peut avoir encore une belle affiche. Et j'ai bien aimé quand même que bah il y a une petite trahison, il y a un truc, mais que ça se soit passé comme ça quoi. J'ai trouvé que le Miz a très bien joué, genre un coup du sort un petit peu, il s'en mord les doigts, il est
mauvais
désolé,
réflexe.
Mais voilà, ils se sont pas mis sur la gueule l'un contre l'autre, alors ça viendra peut-être, voilà. Mais pour le moment, on n'est pas dans une espèce de jalousie un peu crade, un petit peu comme nous ont fait Garza et Andrade là ces dernières semaines à se mettre sur la tronche avec Théorie. Non là, c'était voilà, c'était une erreur.
Il y a pas de au milieu, hein, donc tout de suite ça baisse un peu les tensions. C'est Strowman que milieu.
Ouais, t'as raison. Oui, c'est sûr que ça fait bloc quand même. C'est pas pareil. Il y a pas le doux parfum des oestrogènes pour énerver un petit peu les mâles. T'as raison.
Et oui.
En tout cas, Braun toujours champion. Malheureusement, il lui arrivera d'autres petites bricoles un peu plus tard dans la soirée. Dégâts collatérales d'une autre grosse feud dont on va parler juste après ce match-là, l'avant-dernier match de la soirée. Le match...
Déjà.
Et ouais, le match pour le titre WWE, le pendant de l'Universal Championship de SmackDown, Arrow. Donc le champion s'appelle...
Drew
McIntyre, le Scottish Psychopath. Il affronte Bobby Lashley, accompagné de son manager MVP. Les deux montent sur le ring. MVP commence à invectiver un petit peu Drew McIntyre. Et ça permet à Bobby Lashley de porter sa full Nelson, donc sa prise de soumission qui fait très très mal au cou, sur Drew McIntyre. Le match n'est pas commencé. Hein, donc
et ouais, direct.
Direct, le mec, voilà, attaque sévère. Les arbitres arrivent, ils sont trois, ils sont obligés de les faire lâcher, etc. Bon, Bobby finit par lâcher les prises. Excellente. Et Drew, bon, il a mal au cou quand même. Hein. Ça le picote un peu, mais l'arbitre lui dit « Est-ce que vous voulez continuer ? Est-ce que vous voulez commencer ?» Il fait « Ouais, ouais, c'est bon, yes, yes, ok. » Bon, la cloche sonne, Bobby Lashley prend les affaires en main, il attrape Drew McIntyre, il l'envoie dans le coin comme il fait d'habitude, là, ses coups de bélier, un peu comme faisait Batista aussi. Il lui enlève sa veste, parce que Drew avait pas eu le temps d'enlever sa veste, et du coup, il risquait de transpirer beaucoup, donc là, Lashley lui donne un petit coup de main. Il le travaille au sol, mais Drew se réveille un peu, il envoie Bobby Lashley dehors. Sauf que dehors, MVP est toujours là, donc MVP distrait à nouveau Drew McIntyre, ce qui permet à Bobby Lashley de l'envoyer dans le poteau à l'écossais. Lashley s'élance pour faire un spear, mais Drew McIntyre, on est toujours à l'extérieur, l'évite, et hop, Lashley finit par traverser les barricades, par s'écraser contre les barricades en mousse, là. On revient sur le ring, il s'échange des coups, là, les fameux coups de poing là où le public fait « Oh, hey, poum, pam, poum, pif, paf, poum ». Drew McIntyre porte un spinebuster, Bobby Lashley porte lui aussi un spinebuster, puis envoie Drew dans le poteau, on est dans le ring. Bobby Lashley se sent prêt, il est encouragé par MVP, il essaye de passer sa Nelson, mais ça passe pas. À la place, Drew McIntyre l'attrape sur son dos et lui place le reverse Alabama Slam, là il lui éclate la tronche sur le ring. Drew commence à attraper Bobby Lashley. Il sous-entend vaguement un espèce de pile driver. Il se place
Ah
quasiment
oui.
comme un tombstone. Et oui, mais ça ne marchera pas. Bobby Lashley se dégage. Lui, il place un angle lock. On fait référence aux anciens. Puis il s'élance pour un spear. Mais Drew McIntyre l'évite et contre ça, dans sa soumission dont je n'ai pas le nom, là où il tord le bras de
Ouais,
Bobby
c'est
Lashley.
comment ça
Ouais.
s'appelle? C'est celle qu'il avait, la Kimura, non? C'est la l'ex
Peut-être.
de Lesnar, il y avait ça à un moment.
Ah, peut-être, oui, tu dois avoir raison. Ouais, ça, je me souviens plus de son nom. Mais voilà, il essaye de faire très mal au bras à son adversaire, en tout cas. Voilà, vous avez le dessin. On se met sur le turnbuckle et Drew fait une souplex à Bobby Lashley. Il se remet sur le ring, il commence à faire son décompte. 3, 2, 1, il s'élance pour un Claymore, mais il est contré par un gros spear de Bobby Lashley. Mais ça ne sera pas suffisant. Near fall, 1, 2, simplement 2. Voilà, bon, les deux hommes ont bien donné, là, ils sont sur le ring, ils reprennent leur souffle un petit peu, et nous aussi, et tout d'un coup, elle arrive, elle est belle, elle n'a pas sa musique d'entrée, Lana débarque, elle a le regard noir, elle monte sur le ring, elle engueule l'arbitre en lui disant oh, c'est pas bien, vous avez pas bien fait le tomber, voilà, je sais pas quoi. Drew McIntyre envoie un Glasgow Kiss sur Bobby Lashley qui fait tomber Lana, qui chute sur MVP, donc qui tombe aussi, et pendant que tout ce bordel est par terre, et ben un Claymore dans la tronche, et là c'est fini, 1, 2, 3. Drew McIntyre est toujours champion, il célèbre comme à son habitude. Bobby et MVP, eux, ils partent dégoûtés, sans un regard pour Lana qui est assis le cul par terre. Je sais même pas s'ils lui ont pas craché dessus au passage, mais en tout cas, voilà, ils étaient pas contents. Si
Non.
MVP a pas réussi à faire gagner Bobby Lashley, Lana a bien réussi à le faire perdre. Hein.
Ah oui, bah, et bah, alors je vais. C'était un peu ce que j'attendais, moi, comme finish. Bon, c'est pas génial, génial, mais c'est le finish au petit mal pour permettre une victoire de Drew sans trop mettre Bobby bas, quoi. Donc là, bah, il se fait surprendre. C'est limite pas un finish clean. Sinon, tout le reste du match, ils ont vraiment envoyé du steak. Là, c'était un peu comme le match Sheamus contre Jeff Hardy, mais je trouve encore plus stiff, encore plus puissant. Avec, ouais, comme tu as dit, quelques références sympas. Comme si il y a teasé un tombstone, ensuite la ankle lock, ensuite la Kimura lock. Enfin, il y a eu pas mal de références à d'autres superstars. Et bah, ouais, moi, je suis amplement satisfait. C'est. Bah, je vais me répéter parce que vraiment j'ai ressenti la même chose que pour le match Hardy-Sheamus, mais c'est pareil, c'est dans la lignée de la confrontation. C'était le match qu'on attendait de voir et qu'on a eu. Donc pleinement satisfait de ce qu'ils nous ont montré ces deux garçons.
Ouais, bon, le résultat, on avait parié la même chose, hein, je crois. Hein. On avait parié ça. Hein.
Yes, mais j'espérais que Lashley perde de manière à se protéger un peu. Donc là, pour le coup, c'est un peu le cas avec Lana qui finalement prend la défaite pour elle, quoi.
Ouais, je suis bien d'accord avec toi. Je sais pas trop ce qu'ils vont finir par nous donner. Je pense que la raison, bah, je l'ai déjà dit dans un de nos catch-up, hein, que la raison voudrait que. On efface Lana de la WWE, hein, parce que je pense qu'il y a quand même un passif avec son mari bulgare Rousseff qui fait qu'ils ont peut-être pas intérêt à tenter de la mettre à l'écran quand le public reviendra. Alors est-ce qu'ils vont repartir dans un espèce de mélodrama avec Bobby Lashley comme on a eu il y a 6 mois? J'espère pas. Peut-être juste voilà qu'on lui dise bah tu dégages en gros. Mais oui, l'histoire a été. Ils ont raconté ce qu'il fallait raconter, je trouve. Et bah, je crois que moi, c'est le meilleur match que j'ai vu de Bobby Lashley depuis qu'il est revenu à la WWE, là, il y a 2 ans. Donc,
Oui, c'est fort probable, hein.
pleinement satisfait. Stiff, costaud. On se rend bien compte que c'est quand même une bête physique, le Bobby. Et bah, Drew, mine de rien, voilà, continue d'avoir un très beau règne. À aligner les challengers, parce que bon, là, voilà, hein, Lesnar, Andrade, Seth Rollins, Bobby Lashley.
Ouais, c'est comme ça que tu construis une superstar, hein.
Voilà, ça commence à faire un beau tableau de chasse. Là, pour le coup, on peut pronostiquer, on peut envisager. Je pense qu'on en a fini avec Lashley dans la title picture.
Je suis pas si sûr.
Ouais.
Tu vois, le fait que tu m'aies rappelé que ce soit Extreme Rules le prochain, je me
Ouais.
demande si ça sera pas l'occasion de foutre des rematchs de partout, quoi.
Ouais. Alors peut-être que si c'est
En foutant
exactement
une
la même carte que
situation.
ce soir, je sais pas. Il y aura des petits changements quand même.
Ouais, il y aura peut-être un Otis contre Corbin.
Ah oui, bah ça sera un match en couronne en fait. Le ring sera entouré par une grande couronne géante et il faudra
Ouh, vivement ça.
empaler son adversaire. Oui. Non, mais je sais pas trop. Je sais pas trop. On remarque qu'ils veulent. J'ai l'impression qu'ils veulent un peu lui faire ça à Drew, un peu le trophée de chasse. Enfin, tu vois, on a pensé qu'il y aurait un rematch avec Seth Rollins. Il n'a pas eu lieu. Rollins est parti sur autre chose. D'ailleurs, c'est vrai qu'on a eu un pay-per-view sans Rollins. Et tiens, bah, d'ailleurs, un pay-per-view sans aucun des membres du Shield. Je sais pas si on en a eu beaucoup, hein,
Ouh,
depuis qu'il
ça doit être rare, ça.
Ouais, bon, Ambrose il est parti depuis 6 mois maintenant, bientôt un an même, mais bon, ouais, non, même en l'absence de Roman Reigns, je pense que Rollins a été tout le temps là, ouais, bah écoutez, cher
Bah, vu qu'il a
public.
été souvent titré en plus, donc du coup, ça lui permettait d'être à peu près tout le temps là.
Ouais, on va faire
Donc, il
un
faudrait
appel
qu'un
à
auditeur
commentaires.
fidèle puisse enquêter pour nous.
Voilà. Est-ce qu'il y a eu récemment un pay-per-view sans aucun membre du Shield? Bah déjà, les pay-per-view Corona Mania, non, puisqu'on a eu Rollins à chaque fois. Ben le Rumble forcément, et ensuite, ouais, non, je pense que oh, ça doit remonter à loin. Ben, bref, Drew McIntyre est champion, Braun Strowman est toujours champion, on reste sur nos règnes du Performance Center.
Et du coup, tu vois qui toi derrière pour Drew, si tu dis qu'il collectionne les trophées?
Bref, ouais, c'est ça qui est pas évident, parce que c'est vrai que là, on voit plus grand monde, effectivement, sachant que...
Jinder est out, il paraît. Il
Oui.
serait gros blessé, il serait bien blessé, donc ça sera pas lui.
Ouais, il paraît, je suis triste, tu peux pas savoir.
Ah ouais, j'ai senti quand je te l'ai dit que tu as eu l'effroi dans ta voix.
Ouais.
Mais c'est parce que non, mais pour le coup, en termes de Golgoth, il se posait bien là lui aussi. C'est ce que je voulais dire.
Oui. Ah, moi je détestais le règne de Jinder Mahal, champion du monde, mais je dois avouer que là, pour le coup, pour un one shot contre Drew,
Pour
il était
perdre.
voilà, pour perdre, il était légitime. Bah écoute, je sais, c'est vrai qu'on est un peu embêté parce qu'il y a toute cette histoire autour de la storyline Rollins et Rey Mysterio qui, mine de rien, réquisitionne pas mal de monde. Et maintenant, cette storyline autour un peu de Apollo Crews,
Ouais, c'est ça, c'est des grosses histoires, hein.
Owens, Garza, etc. C'est des grosses histoires, donc t'as raison, qu'il reste plus grand monde. Bah, là aussi, hein, appel à vous dans les commentaires, qui donc pourrait ricocher, tiens. Pourquoi pas.
Oui, bien sûr, bien sûr.
Voilà,
Mais pourquoi
c'est...
pas la note, on y est.
Eh ben oui, tiens, pourquoi pas Charlotte, tiens.
Ah, alors là, ça enverrait de la boute dans la tronche.
Je sais pas si j'ai envie de voir ça. Enfin oui, si, quelque part j'ai la curiosité de voir ça, mais bon. Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'on y viendra. On verra. Affaire à suivre pour Drew McIntyre. On nous avait promis en kick-off, et on était un petit peu étonné de ça. On nous avait promis que ce soir, on verrait enfin la fin et la conclusion in-ring de cette fameuse feud Anything you can do, we can do better. Ce que vous pouvez faire, nous, on peut le faire mieux, entre les Street Profits et les Viking Riders. Donc, déjà, on était un peu étonné d'apprendre que ce match était annoncé comme ça, un petit peu comme un cheveu
À
sur la soupe,
l'arrache.
à la hache. Voilà, on en avait parlé nous-mêmes. On avait presque l'impression que ces mecs-là avaient plus envie de se mettre sur la tronche, hein. C'était un petit peu notre conclusion là de ces dernières semaines.
Bah, c'est ce qu'on ressentait.
Bien, figure-toi qu'ils ont envie de se mettre sur la tronche, mais pas sur le ring. Parce que leur match n'aura jamais lieu. Voilà, je vous spoil d'avance. Les. Désolé. Bye spoiler. Les deux équipes ayant décidé de commencer à s'affronter sur le parking et à bien se mettre des coups, hein, quand même des bons nions dans la tronche. Sauf que voilà, ils abîment la voiture de Braun Strowman, ils en pètent le pare-brise. Décidément, Strowman, je pense que chez Carglass, ils doivent beaucoup l'apprécier.
Ah non, mais il
Et.
doit avoir un contrat, une carte de fidélité remplie à ras-bord là.
Ouais, je pense, il doit avoir le kebab gratuit là, ou un truc comme ça.
C'est possible, ouais.
Bon, enfin bref, du coup, on n'aura même pas droit à sa réaction, Strowman, puisque quand même, ces deux Golgoth, enfin ces deux énormes équipes tag team qui sont censées être les meilleures tag team au monde, etc. Quand elles voient qu'elles ont pété la voiture de Strowman, elles s'enfuient aussi vite que quand moi en CM1 pété la vitre du concierge avec un ballon de foot en école primaire. Hein. C'était à peu
Mais
près ça
c'était
la
toi qui
réaction.
avais pété cette vitre? Putain, je m'en
Oui.
doutais quoi.
Ouais, si, si. Bah, c'était mon. Tu sais, j'avais un extérieur gauche capricieux, mais de qualité à l'époque. Hein.
Ah, la Roberto Carlos.
Voilà, je tutoyais souvent la lucarne, mais bon, parfois, voilà, il y avait le une fois sur 10. Ça partait dans une autre lucarne. Voilà. Mais bref. Désolé. Désolé. Envoyez-moi la facture. Qui casse paye. Mais donc,
Vaut tard que jamais.
il vaut mieux tard que jamais. Voilà. Donc ils se retrouvent ensuite dans le couloir, enfin dans un des couloirs du Performance Center. Les Street Profits ont sorti leur club de golf, les Viking Riders leur épée, leur bouclier, leur hache, et pour Ivar, la boule de bowling. Ah oui, alors là, si vous n'aviez pas suivi toutes leurs interactions des dernières semaines, c'est un peu le best-of, le panaché. On va évoquer tout ça. Donc ils se mettent à fond une baston dans le couloir, dans un espèce de barnum blanc. Ils décident finalement de lâcher toutes les armes et de se battre à main nue. Eric et Dawkins s'en vont. Pendant ce temps, Ivar attrape sa boule de bowling. Il se rappelle les bons moments qu'ils ont eu au bowling. Il la fait rouler directement dans les parties sensibles de Montez Ford. Le pauvre, ça fait mal. On a eu mal pour lui. Et d'ailleurs, il a bien exprimé la douleur hein, avec ses yeux qui partent dans tous les sens, Montez Ford.
On sentait la souffrance.
On sentait la douleur. On a une petite pensée pour Bianca Belair. Tiens, d'ailleurs, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu elle. Petite pensée au passage. Dawkins, lui, attrape Ivar, oui, d'ailleurs, il attrape Ivar, il lui fait passer à travers une vitre. Alors, ils sont tous les deux pétés de partout, ils ont des bouts de verre dans tous les sens. Ivar a un flashback de toutes ces fois où il a retrouvé des morceaux de dinde. Parce qu'il y a beaucoup de flashbacks ce soir aussi. C'est le moment cinématique de ce pay-per-view. Bon, voilà, ils se sont déjà donné bien sur la tronche, ils se relèvent un petit peu les deux, voilà, les deux équipes, ils se regardent, ils se disent, ouais, dis donc, ça a escaladé vite quand même, comment ça se fait qu'on s'en soit venu si fort, hein, finalement on est copains, ouais, ils sont presque à se dire, finalement on est copains, et là tout d'un coup, puisqu'ils sont dehors, ils sont sur le parking, des motards débarquent, voilà, une bande des Angels locaux, des Hell's Gates, des Harley Davidson, etc., tout le monde se gare. Les motards sont habillés tout de noir. L'un d'eux s'avance. Il enlève son casque. Et ben, hein ? On aurait attendu ça ? Quelle surprise ! Akira Tozawa.
Surprise.
Voilà. Ben voilà. Akira Tozawa qui est là. Donc le petit, un petit luchador de 205 qui est avec une armée de ninja. Et du coup, ben les Viking Riders et les Street Profits sont obligés de faire corps ensemble. Et ils disent voilà. On est les Viking Profits, donc voilà, maintenant on fusionne à 4 et ils affrontent les ninjas dans une séquence kung-fu de grande qualité avec les bruitages des coups de poing, des coups de pied. Les ninjas ne font pas long feu, hein. Comme d'habitude, ils sont 10, 15, 20, mais ils sont tous détruits les uns après les autres. Sauf que Akira Tozawa, il fait appel à son meilleur ninja, qui est un beau ninja black de 2m50 à peu près et qui a une épée, un sabre de 3m80 à peu près. Donc Ivar tente de faire revenir, ça c'est extraordinaire, il fait revenir sa cuisse.
Il utilise la force.
Qui était dans les buissons, voilà, il utilise la force, il la fait revenir dans sa main, mais finalement, il se dit que ça fera pas l'affaire. Donc les Viking Profits, puisqu'il faut les appeler comme ça, les quatre finissent par fuir, ils s'en vont sur le toit, les espèces de toits des grands camions fourgons télé là. Ivar a perdu son souffle. Du coup, les Street Profits se foutent un peu de lui. Oh là là, t'as plus de cardio, etc. Et finalement, les deux équipes se remettent à se disputer, à reprendre la baston. Et tout le monde tombe dans la benne des poubelles avec les ordures. Ivar a à nouveau un flash. Il se rappelle sûrement l'odeur qui lui rappelle toutes ces femmes qui, ces dernières semaines, l'ont trouvé mignon. Et finalement, c'est pas un flash, c'est une réalité, puisque l'arbitre féminine de la WWE, dont je ne connais pas le nom, malheureusement, je ne retiens pas les noms des arbitres. Elle est là, elle leur dit, les gars, vous avez votre match là qui est prévu. Et puis elle dit, ouais, Ivar, t'es plutôt mignon quand même. Toi, Eric, pas tant que ça, not so much. Et on finit par découvrir que en fait, il y a des alligators dans cette poubelle.
Et
donc tout le monde s'enfuit. Les Street Profits et les Viking Riders s'enfuient du camion poubelle. Et on en finit là-dessus. D'ailleurs, ça finit un peu sans fin, encore une fois. Pas de conclusion, pas de vrai vainqueur. On n'aura pas de match de catch.
Voilà, c'est ça. Ça finit en disant qu'on n'aura pas le match.
Voilà. Et qu'est-ce que tu as pensé de tout ça qui... J'ai pas le chrono, mais bien une demi-heure, non, je pense.
Alors, c'est peut-être pas tant. Peut-être plus long que ça. Non, ça paraissait peut-être plus long que ça l'était réellement. C'est ce que
D'accord.
je voulais dire. C'est peut-être parce qu'une demi-heure de conneries, je pense que ça aurait vraiment fait long.
Non, t'as raison, ouais.
Il faudrait qu'on vérifie comme le chrono. Mm-hmm. Alors, le coup du Everything You Do, We Can Do Better, j'ai l'impression que c'était destiné à leur petit copain de l'AEW, cette référence, parce que j'ai l'impression qu'ils ont voulu faire un peu comme eux, aller dans le NAMAC complet. Mm. Et dans ce nawak, j'ai envie de distinguer deux parties. La partie jusqu'à la boule de bowling où c'était pas terrible. Parce qu'il il casse la voiture de Strowman, mais à part ça, on comprend pas trop pourquoi ils se battent déjà, vu qu'ils étaient censés être copains, puis là, ils ont un match, mais non, ils décident de se taper de se foutre sur la gueule sur le parking. Et puis, à partir du moment où, globalement, quand les ninjas arrivent, alors là, ça part dans le nawak complet. Et ouais, c'était moi, pour le coup, à partir de cette partie-là, je me suis bien marré, en fait. Je me suis dit, ah d'accord, c'est comme ça qu'il faut le prendre, c'est devenu, il n'y a plus aucun sens, bah autant se faire plaisir. Et pour le coup, je pense que les quatre se sont fait énormément plaisir sur ces trucs-là, parce qu'ils ont vraiment fait les cons. Et je sens que les Vikings, ils ont pas mal de second degré, donc ils arrivent bien à faire les clowns. Donc tu as Iver qui utilise la force, Eric à un moment qui veut affronter le ninja lui tout seul, et puis les autres ils font non, t'es con toi, vas-y barre-toi, il fait 3 mètres et il y a un sabre, vite on se casse. Les alligators dans la benne à la fin, au final tu vois, j'ai eu très peur au début parce que le début j'étais pas emballé, et puis en plus avec les flashbacks par rapport au truc avant, je suis oh putain, on va montrer le golf et tout. Et au final, une fois que c'est parti dans le grand n'importe quoi avec Tozawa qui avait l'air aussi de vraiment bien se marrer avec ses mimiques faciales très expressives, donc ils se sont marrés, et je le dis, moi aussi je me suis marré.
Je suis plutôt d'accord avec toi, je me suis bien marré aussi sur certains passages. Même moi, je vais plutôt vraiment extraire limite juste le passage des ninjas, parce que ça m'a presque déçu à la fin. Déçu. Qu'ils repartent un petit peu en baston. Heureusement, ça n'a pas duré très longtemps là, qu'ils soient tombés dans la poubelle. Mais je pense qu'effectivement, on a quatre jeunes gens qui se sont bien amusés. Là, ils ont l'air de tous avoir pas mal d'humour. Ils ont joué avec des gags visuels. Ils ont été à fond dans les grimaces, dans les machins. On est dans le... c'est ça au final aussi le catch, hein. C'est vraiment du Looney Tunes, du Tex Avery, et on se met sur la tronche et bim et boum, les ninjas qui sortent de nulle part, donc pourquoi pas.
Pourquoi pas. Il y a plein de petites références sympas, je me suis bien marré. À un moment, pour te dire à quel point il y avait des références, je me suis même demandé si le grand ninja ça allait pas être Chicky O'Neill ou une connerie comme ça, je me suis dit ils sont plus à ça près, mais non, après c'était pas lui, sinon je pense qu'ils auraient quand même montré son visage.
Non, mais on ne saura pas qui c'était ce grand ninja. Hein. Sûrement un monsieur du Performance Center, peut-être.
Ouais, après, c'est ce que j'ai lu, je crois que sur Internet, c'était un jeune très grand du Performance Center.
Oui, alors, il y a sûrement eu un peu effet contre-plongée caméra, mais il a paru grand, ce monsieur. Hein.
Ah, il doit faire 2m20, je crois.
Ah oui, c'est le futur Great Khali.
Jayan Gonzalez.
Ouais, voilà. Giant Nega, il pourrait l'appeler. Ce serait un joli nom, tiens. Ninja Nig. Segment rigolo, mais c'est vrai que j'ai l'impression que... Est-ce qu'on l'aura finalement ce match de catch pour une ceinture tag team entre ces deux équipes-là?
Oui, je pense, parce qu'ils finissent à 4 quand même dans le segment, donc il peut avoir une suite. Et pour le coup, du coup, ça justifie qu'ils n'aient pas vendu le match à l'avance, quoi, parce que s'ils avaient vendu le match en disant « Voilà, enfin, on a hâte de faire les cons, il va y avoir notre vraie opposition, puis qu'ils nous aient servi ça », ça aurait fait, ça aurait pas été du meilleur effet. Là, du coup, comme ils nous vendaient pas grand chose, hormis en pré-show, ils ont dit, au fait, on aura cette rivalité. Bah, c'est pas plus mal, quoi. Comme ça, c'était un faux match, mais au moins, on s'était pas hypé à tort.
Ouais, moi, au final, j'ai bien aimé. J'espère que ça referme quand même cette grosse parenthèse d'à peu près un mois là, de division tag team d'Euro qui est en comedy wrestling et filmé à l'extérieur, et que maintenant voilà nouveau pay-per-view à venir, stipulation extrême, on est un petit peu plus de violence et un petit peu plus de catch, mais voilà, plutôt pas si mal fini.
Tout à fait.
Et puis main event, dis donc.
Et oui, et pourtant il reste une heure de show. Qu'est-ce qui se passe?
Il reste une heure de show, mais c'est normal parce que là c'est pas n'importe quel main event, c'est le greatest wrestling match ever, 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 le plus grand, le meilleur match de catch de l'histoire. On le savait, on nous l'avait annoncé, on était prêt. Est-ce qu'on peut vraiment être prêt au meilleur match de catch de l'histoire? Bonne question, ça, finalement.
Ah en tout cas, là, tu vois, à ce moment-là, je suis attentif. Je me dis, qu'est-ce qui va se passer? Ils gardent vraiment une heure pour ce match-là. Qu'est-ce qui nous réserve?
Qu'est-ce qu'il nous réserve? En tout cas, il joue le jeu à fond, puisqu'on a l'entrée d'Orton, l'entrée de Edge, les entrées à Donf, ambiance combat de boxe, voilà, on a le micro qui descend du plafond du MSG, Madison Square Garden, avec le micro qui nous annonce les tailles, les poids, C'est parti, on a l'arbitre historique, c'est Charles Robinson hein, qui était là, c'est ça?
Tout à fait, et en plus, ils l'ont précisé avant le match, ils ont mis des caméras spéciales pour qu'on ait différents angles de vue, et ils ont remonté le son un peu pour que ça fasse vraiment ambiance full, même si ça n'a pas super bien marché, je trouve.
Ah ben, en tout cas, ils ont essayé, ils ont sûrement demandé aux petits jeunes aussi d'y aller à fond, et ils y sont allés à fond. J'ai trouvé ça assez drôle, ils ont vraiment joué la carte au maximum. Donc, eh bien oui, nous avons ce greatest wrestling match ever, et effectivement, il s'y passe beaucoup de choses, donc je vais essayer de vous décrire ça à peu près comme ça s'est passé.
Prends un bouquin.
Ah ouais, j'en prends un bon bouquin. Donc, au début du match, c'est Edge qui est plus en forme, il commence à envoyer des arm drag, donc à projeter Edge dans tous les sens, mais pour le troisième, il le rate. Orton, lui, au sol, va placer un scissor, donc il essaye un peu d'étrangler Edge. On a une séquence où les deux s'évitent beaucoup et se rencontrent dedans et dehors, donc ils rentrent, ils sortent, l'un essaye de frapper l'autre, l'autre essaye de l'éviter. On nous rappelle que ces deux-là se connaissent depuis 20 ans, donc ils connaissent par cœur leurs coups à l'avance, etc. Edge passe même sous les jambes de Randy Orton pour réussir à l'éviter. Et à un moment donné, Edge est sur le turnbuckle, il envoie un headbutt, donc un coup de tête à Randy Orton qui tombe sur l'arête du ring. Il descend sur lui en closest line et Randy Orton saigne. Il saigne je crois que c'est l'arête du nez hein, qui s'est pété là.
C'était au bord de l'arcade.
Ouais, c'est que voilà, quelque part sur. De toute façon, Orton il est rasé donc le crâne est vaste, mais voilà, il commence. Le sang coule, mais ça sera pas. Ça va s'arrêter hein, assez vite. Il va pas pisser le sang pendant tout le match comme peut le faire Dustin Rhodes à la AEW. Bref, Randy Orton tente un RKO, mais il le rate, donc ça, il retombe sur le dos, ça lui fait d'autant plus mal. Edge tente lui sa soumission, sa soumission qu'il a utilisée à WrestleMania, qu'ils appellent le Anti-Venom, qu'il avait utilisé pour gagner le Last Man Standing, donc une espèce de torsion du bras et de la nuque en même temps. Orton lui réussit à placer son neckbreaker, il pousse Edge, il envoie Edge dans le plexiglas aussi, il travaille la nuque, hein, puisque Edge voilà, a 9 ans de blessure de la nuque, donc c'est quand même un point sensible à travailler. Il le fait taper même un peu sur la table des commentateurs, à plusieurs reprises. Il le remet sur le ring, il fait son fameux tour du monde, là, le Orton lent et méthodique que l'on connaît, un petit coup de pied sur la cheville, un petit coup de pied sur le poignet, etc. Il tente, alors c'est assez amusant cette séquence, Orton tente, en regardant le ciel, il tente un hommage à des légendes du catch disparues. Il tente le Tres Amigos, les trois souplesses de Eddie Guerrero. Il en place seulement deux, quand il commence la troisième, Edge contre, et Edge lui réussit à placer les trois, donc les Tres Amigos sont bien là, hommage à Eddie Guerrero. Les deux hommes se relèvent en se plaçant des atémis tour à tour, donc hommage à Ric Flair qui n'est pas mort, mais le morceau qui reste est pas...
C'est quasi pareil.
C'est quasi pareil. On l'aura vu quand même en kick-off dire qu'il pensait que c'est Randy Orton qui allait gagner. Bref, Edge se met à dominer au niveau des atémis. Par contre, Orton envoie un dropkick. Sur le turnbuckle, il place un superplex sur Edge. Edge, lui, va se réveiller en plaçant sa Edgecution. Puis il se met sur la troisième corde, il fait un crossbody, une powerbomb, mais Randy Orton envoie Edge dehors par-dessus la troisième corde, et ensuite il fait son fameux, sa fameuse prise, la vintage, comme dit Michael Cole, c'est-à-dire DDT depuis en lui mettant les pieds en équilibre sur la deuxième corde. Deux RKO même sont évités par Edge, il a chaud le Canadien, lui il place son Edge-O-Matic, et ça fait 1, 2, simplement 2. Edge s'élance pour un spear qu'il rate, mais il place son Unpreacher, petit coucou à son copain Christian. Là encore, ça fait near fall. Hein. La foule commence à chanter des This is awesome. Les petits rookies prennent une leçon de catch. Bon, là, je vous le décris un peu rapide, hein, mais il faut bien se dire qu'il y a du temps de récupération et de repos. Donc voilà, on a bien à 30, 35, etc., 35 minutes. Orton fait un hommage à l'un de ses mentors. Il place un pedigree, croyez-le ou non, mais ça fera near fall. Edge se relève. Edge, réponse du berger à la bergère, comme on dit, en profite pour placer la prise de l'ennemi juré de Triple H, c'est-à-dire The Rock. Edge place un Rock Bottom. Là aussi, near fall. Il y a une espèce de série de roll-up, mais on n'est pas chez les filles, donc ça ne passera pas. Et tout d'un coup, Randy Orton rend hommage à lui-même. RKO, les trois plus destructrices lettres de la WWE. 1, 2 et non, kick out de Edge, simplement 2. Bon, il est un peu vénère, Andy Orton, là, ça commence à faire beaucoup. Il se recule, il s'apprête à lancer son fameux kick qui l'a rendu célèbre. Mais au milieu de la course, il est contré par un spear de Edge qui va enchaîner avec un deuxième spear. Et là aussi, un, deux, simplement deux. Orton se relève. Donc les deux hommes commencent à être bien mal en point l'un et l'autre. Randy Orton place un deuxième RKO. Allez, là, c'est un, deux, et non. Nearfall à nouveau.
Toujours pas.
Toujours pas, on se relève de deux RKO. Edge tente à nouveau sa prise de soumission, son espèce de anti-venom, mais Randy Orton le repousse. Alors là, les commentateurs disent « Ah, qu'est-ce qu'il y a eu ? Est-ce qu'il y a eu un low blow ou un truc comme ça ?» Enfin, on voit pas très bien ce qui se passe. Toujours est-il que Edge tombe au sol, Randy Orton en profite, là, il prend pas d'élan, boum ! Gros coup de pied dans la tronche, punt kick, il couvre, 1, 2 et 3 ce coup-ci, c'est bon. Je crois bien que Papy a gagné son pronostic. Hein.
Oui !
Oui, Randy Orton, après plus de au moins 50 minutes de match, remporte le Greatest Wrestling Match Ever. Eh ben, écoute, on espérait, on envisageait, on pensait qu'il y avait un twist, qu'il y aurait un truc, qu'il y aurait une intervention, qu'il y aurait Christian peut-être, qu'il y aurait quoi que ce soit. On peut dire que la WWE a assumé, on a donné 50 minutes à ces mecs. Ils ont fait à peu près tout ce qu'ils avaient dans leur répertoire. Est-ce que c'est le meilleur match de catch de l'histoire ? Peut-être pas, mais qu'est-ce que t'en penses, Papy ? Satisfait ou déçu ?
Je suis d'accord avec toi, en fait. C'est à la fois, on n'a pas effectivement, on s'attendait à ce qu'il y ait une entourloupe parce qu'on disait c'est pas possible, ils peuvent pas aller sur le meilleur match de l'histoire du show, de tout ça. En plus, tu te dis, ils vont 50 minutes de ce que tu le vois, tu sens le petit chrono, tu sais qu'il reste 50 minutes et tu te dis, ils vont pas faire 50 minutes de match. Et ben, si, ils ont assumé plus qu'assumé parce que. Pour le coup, ils ont fait un vrai match de qui dure 50 minutes. Ils n'ont pas juste rallongé la sauce parce qu'il y a vraiment des étapes différentes avec un début plutôt lent tout en esquive. Il y a tout le passage dehors. En fait, à partir du moment où il y a le neckbreaker de Orton sur Edge et qui commence à l'enchaîner dehors puis qui enchaîne sur le Tres Amigos, à partir de là, tu as une autre période qui passe ensuite vers l'enchaînement de dommages et de finishers d'autres catcheurs. Donc c'est vrai qu'il était bien compartimenté ce match et du coup bah pour un match qui était long c'était pas mauvais, c'était même bon. Le meilleur match de tous les temps je pense pas, on en trouvera toujours des meilleurs, mais en tout cas moi j'ai peur d'une bouse et pour le coup bah voilà, c'était dans le thème de la leçon aux jeunes. Bah là je trouve qu'ils ont donné une bonne leçon en disant bah voilà, nous on a nos deux gars. Alors Orton est un peu plus jeune, je crois qu'il a seulement la quarantaine ou 39 ou je sais plus, mais Edge a bien 45 ans, bien tapé, et à deux ils en ont sorti une belle performance qui ont montré que finalement ils en avaient encore sous le capot quoi, et au point que j'ai pas tant que ça été dérangé par l'absence de public, même si les bruits de fond me rappelaient plus parfois le jeu vidéo WWE 2K qu'une vraie ambiance de stade, mais bon, ça passait quoi. J'ai regardé jusqu'au bout et ben voilà. En plus, victoire d'Orton. Par contre, est-ce que ça sous-entend qu'il y aura une belle ? C'est pas impossible.
Ouais, c'est peut-être ce qu'on peut se dire. Est-ce que ça serait pas le match de trop si on a une belle ? En même temps, on a tellement pensé que ce match-là était le match de trop et l'ami tonton Chris en était persuadé. Je serais curieux d'avoir son avis. Lui qui a ben, l'âge de Randy Orton et de Edge cumulé à deux jours près, je crois, les années
bissextiles.
Et ben là, moi, je suis assez épaté, je dois le dire. Alors, le greatest match history, non, effectivement, non. J'ai le souvenir d'autres matchs qui m'ont bien plus scotché, bien plus. Mais ils ont pris le pari de le raconter sous cet angle-là. C'était très risqué, c'était peut-être même pas forcément un bon choix, mais au final, je trouve que voilà, ils ont validé leur truc. De toute façon, quand on annonce quelque chose comme le plus grand, que ce soit dans la boxe, dans le foot ou autre, ça c'est jamais, on est toujours déçu par cette attente, mais là, j'ai pas été déçu.
Parce qu'au final, on n'attendait rien finalement. Ils avaient tellement vendu le truc qu'au final, on n'y attendait rien. Donc,
voilà, oui, c'est vrai. C'est vrai, ils ont mal fait la feud. Enfin, ils ont mal fait la feud. Ils n'ont pas réussi à nous intéresser plus que ça à ce rematch, mais le match a réussi à nous scotcher. Voilà. Moi, j'ai Orton dans mon cœur. Il a des hauts et des bas. Il y a des moments où je le trouve très bon, des moments où je me dis ouais, c'est quand même chiant comme catcheur des fois. Mais là, il a assuré à fond. Edge, bah voilà quoi. Edge en 2020 fait 55 minutes de catch. Voilà, 1er janvier de cette année. On n'aurait pas pu imaginer ça. Ils sont pas allés dans l'overbooking. On n'a pas eu de voilà, on aurait pu avoir ça aussi, les fameux que moi j'aime pas trop, les fameux ref bump là. Ou l'arbitre, vrai. On aurait pu avoir un arbitre qui prend un coup, puis Orton qui va chercher une chaise ou autre, ou un concerto ou tout ça. Non, on n'a pas eu. On a eu du vrai catch, on a eu du bon catch. Et voilà, leçon aux petits jeunes, rivalité ou pas avec la fameuse AEW, on ne sait pas. Enfin voilà, mais en tout cas, les vétérans ont assuré, j'ai trouvé, chapeau bas, plaisant, surprenant sur le résultat, parce que moi je voyais plus Edge, mais plus le match avançait, plus j'avais envie, J'étais plus pour Orton, j'avoue, je sais pas, j'ai trouvé qu'il méritait d'avoir sa victoire.
C'est un gros match, Orton, hein, franchement, ouais. Il est... Alors, Edge, bien sûr, c'est impressionnant, vu d'où il revient, qu'il puisse encore sortir ça, mais j'ai l'impression que c'est vraiment Orton qui a porté le match sur ce truc-là. Il a été vraiment épatant et techniquement très, très, très propre. Hein. C'est une performance, une masterclass, comme on dirait.
Ah ouais. Là, c'est une super ligne pour leur CV à tous les deux, mais pour Orton, clairement, parce que autant Edge, Edge, il n'est pas là depuis 9 ans, donc il a un peu tout à écrire, et autant Orton, c'est vrai que j'ai des fois, je me dis, il y a eu des périodes, l'année dernière ou autre, où quand il est un peu en deçà, je me dis, qu'est-ce qu'il peut encore trop nous raconter, en fait, Orton, parce que lui, vraiment, il a eu des blessures, Orton, mais on a vraiment l'impression d'avoir vu genre, tous les jours de l'année depuis 10 ans, quoi.
Depuis 20 ans, même, quasiment, 15 ans, au moins 15 ans.
Au moins 15 ans. Et donc, bien joué Orton. Et moi, j'ai bien aimé hein, ces moments hommage. J'ai bien aimé les Three Amigos, le Rock Bottom et tout ça. C'est un choix sympathique, amusant.
C'est ce qu'il faut. Hein, et tu vois, on disait, à SmackDown qu'on avait eu un match de weekly entre Bryan et AJ Styles. Ben là, pour le coup, là, c'était un vrai match de pay-per-view. Là, tu avais... effectivement, les near-fall et tout, les vrais near-fall, là, tu sais, ceux où tu... Ouh là là, c'était pas loin ouais. Donc, c'est réussi.
Oui, t'as raison. Là, on a eu cette semaine, on va dire, trois matchs de la catégorie vétéran, là, dans l'écurie bleue, là, le AJ Styles Bryan, le Jeff Hardy Sheamus et ce main event, ben, finalement, oui, hein, c'est bizarre à dire, mais c'est AJ Styles et Bryan qui s'en sont le moins bien sortis, hein.
Ils en ont peut-être, mais je pense qu'ils ont. Enfin, j'espère qu'ils ont regardé sous la pédale.
Oui, oui. On a vu vaguement AJ Styles qui nous a promis une célébration hein, pour SmackDown, si ma mémoire est bonne. Je ne sais pas si tu l'as aperçu.
Si, oui, tout à fait. Il a annoncé. Il a fait comme font tout le monde. Il a vendu le show d'après.
Voilà. Écoute, en attendant le show d'après, on en a fini avec ce backlash. C'était. Je l'avais rappelé à SmackDown. Hein, c'était le premier, on va dire, vrai. Enfin. Premier pay-per-view sans stipulation, sans WrestleMania ou autre de l'ère Coronamania. Donc, on pouvait se poser des questions sur son contenu. Papy, est-ce que tu peux nous donner ton mot de la fin ? Là, il est temps de dire sur ce show un top, un flop et une note.
Ouh, ça va pas être facile. Hein. Ça va pas être facile parce que tu vois, je suis encore plein d'hésitations sur les trois sujets. Mon flop, j'hésite à le donner. Alors, je vais pas le donner aux filles en général parce que l'opener était pas si dégueu que ça. Donc, ça sera pour Asuka versus Nia Jax qui était sans intérêt et mal booké. Clairement, c'était ni fait ni à faire ce qu'elles ont fait à deux. C'était pour ça, il fallait limite les laisser en pré-show ou alors les faire se battre en dehors du. Avant même le match, j'en sais rien, mais bon, ça n'a vraiment aucun intérêt. C'est cette rivalité. Mon top, j'hésite, parce que j'aimerais bien le donner à la leçon des vétérans. Alors, les vétérans, j'englobe les 4 de plus de 40 ans. Voire 5, parce que je crois que l'Achille aussi est de cette génération-là.
Oh oui.
Ou alors les Street Profits, parce que je me suis vraiment marré comme un con avec les ninjas. Allez, vu que j'avais été violent, tu me diras, j'étais violent avec tout le monde, là. On a un coup de cœur pour les vieux qui ont montré qu'ils en avaient encore sous le capot. Voilà, entrevue, on se soutient. Franchement, ils m'ont épaté. Là, j'ai les 5 dont je parlais, donc plus Drew, bien sûr, qui est pas vieux, mais qui était aussi dans un de ces matchs. Franchement, ces trois matchs-là étaient au-dessus du lot Et en plus, bah, du coup, ouais, voilà, c'était très bien. Voilà. Je ne sais plus quoi dire. J'en perds mes mots, j'en perds mon latin. Voilà, donc autant passer à la note plutôt que continuer à galérer sur mon top. La note, du coup, bah, je vais mettre une bonne note. Je vais mettre une bonne note parce que la dernière heure et demie, voire les deux dernières heures, enfin, était vraiment bien. Donc je vais mettre un 3,5, qui est certainement ma meilleure note depuis le début de Corona Mania. Même meilleur que le takeover, que le NXT takeover, parce que ouais, globalement, moi, c'était the greatest show de tout le Corona Mania. Voilà, je n'ai rien d'autre à dire.
Eh ben, écoute, alors je prends le relais et je partage tout à fait ton avis. J'étais un peu, voilà, je me questionnais sur ce qu'ils allaient pouvoir proposer, puisque le fait que le public soit là, même si c'est pas un vrai public, ça efface un peu la possibilité de faire des matchs avec des coupures, comme ils ont pu le faire, par exemple, entre Braun Strowman et Bray Wyatt, quand il y avait les marionnettes et tout. Bon, je dis pas que ça m'a... c'était extraordinaire, ce moment-là, mais tu vois, ils pouvaient plus faire ce genre de match avec des cuts et un petit peu de montage. Mais au final, je trouve qu'ils s'en sont très bien sortis, et c'est un peu cruel à dire, mais ouais, c'est un peu les deux passages féminins, et surtout celui d'Asuka, qui sont les deux moments un peu mous du genou. Sinon, moi, j'ai trouvé qu'il y avait une très belle harmonie entre des très bons matchs, comme tu l'as dit, de costaud avec les vétérans. Finalement, du coup, au milieu de tout ça, le match avec Miz et Morrison passe plutôt bien. C'est un petit digestif, c'est le petit trou normand, j'ai trouvé.
Petite respiration.
Voilà, petite respiration. Donc, l'humour était là plutôt pas mal. Ouais. C'est Street Profits, Viking Riders, c'est drôle, on les imaginait pas forcément dans le comedy wrestling, mais ils étaient là. Et donc moi, mon flop, bah écoute, je vais malheureusement là, on va pas avoir dissension, on va pas avoir feud, hein, parce que je mets le flop, alors je le mets uniquement à Nia Jax. Allez, je garde
une petite différence.
Voilà, je protège Asuka un petit peu, parce que voilà, la pauvre, elle est toute récente championne, mais non, pour moi, c'est la faute à Nia Jax. Et du coup, pareil, je vais un peu centrer, je vais mettre mon top au main event, plus précisément. Bon, je veux dire, main event de 55 minutes, ça fait pas plus précis, mais voilà, j'ai eu beaucoup de mal et de... Enfin, vraiment, je comprenais pas comment ils avaient pu faire un espèce de brainstorming, un tour de table, là, les bookers, en disant, tiens, on va refaire un match Edge Orton, et ben on va dire que ça sera le meilleur match qui ait jamais eu lieu. Je me suis dit, bah, mais non, il faut... Enfin, pour moi, c'était persuadé qu'il faut avoir une idée derrière la tête, alors je... Ça aurait pu être le cas d'une invasion un peu, tu sais, ça aurait pu être, je sais pas, ben Ric Flair, enfin, bon, on peut pas trop sortir les vieux de la maison de retraite à cause du corona.
Ou alors des jeunes peut-être, faire arriver l'Undisputed Era qui aurait débarqué pour dire, maintenant c'est terminé l'ère des vieux, voici l'ère des jeunes.
Ouais, ça aurait pu.
On pouvait tout imaginer.
J'imagine quand même très mal une montée de l'Undisputed Era tant qu'il n'y a pas de public, parce que ça...
Ah oui, c'est vrai.
Le jour où ça arrive, je pense qu'il y a grosse pop, hein, quand même. Je sais pas comment ils le feront, mais ça sera peut-être
Une montée les plus attendues depuis très très longtemps.
Ah, je pense que ça serait la montée la plus attendue. Bah si, s'ils gardent le packaging total de l'Undisputed Era, mais il n'y a pas de raison qu'ils les splitent ou quoi. Ouais, je pense que ça peut être... Tiens, ça serait une bonne chose à réfléchir, un bon sujet. Quelle aurait été jusqu'à présent une montée très attendue un mec ou une fille dont on attendait... moi, je me souviens bien de la fameuse soirée où Stephanie McMahon call-up Bayley, Sasha Banks et pour lancer la révolution féminine. Ça, c'était un grand moment, mais...
Ouais, moi, je me souviens... Alors, c'est nul, finalement, avec le recul, mais je me souviens de... Je me souviens très longtemps Perfect 10 de Ty Dillinger qui arrive au Royal Rumble en 10e position. Alors là,
ah oui.
Là, le plafond avait explosé ce soir-là.
Là, t'as, oui, voilà, l'exemple parfait du truc qui avait bruissé partout sur Internet. Ils l'ont fait. C'était bien, oui, d'ailleurs, mais c'était bien ce soir-là, ouais. Bon, c'est un peu dommage pour la suite pour lui, mais... Ouais, donc on attendait beaucoup de choses. Ça aurait pu être plein d'overbooking et de scénarios bizarres, ce wrestling match. Et puis, bah non. Respect, la WWE assume son côté wrestling et j'ai bien aimé. Et donc, pareil. 3,5 pour moi, emballé, c'est pesé. On a bien aimé, ça prouve qu'on peut faire des bons shows, qu'on peut faire du bon catch. Voilà, maintenant il faut tenir la même chose là.
Voilà, et arrêter de nous faire peur avec des bookings foireux là.
Ouais, bah là, on n'a pas vu Otis ni Baron Corbin. C'est peut-être... ça aide quand même dans un show.
Voilà, il y a peut-être aussi un indice à chercher de ce côté-là.
Mais c'est vrai qu'on n'a pas vu ni Bryan, ni AJ Styles, ni Seth Rollins, ni Aleister Black sur le ring. Et on a quand même eu un bon show, comme quoi... Non, c'est on l'a, de toute façon, on l'a toujours dit, hein, les problèmes à la WWE quand c'est pas bon, ça vient pas de la qualité du roster, hein, ça vient des choix de mise en scène. Et là, on a eu des catcheurs, voilà, dont McIntyre, Orton et Edge, comme tu l'as dit, Jeff Hardy, Sheamus, non, qui ont assuré leur boulot et à qui on a laissé faire le job. Pas de Kofi Kingston, tiens non plus, pas de ceinture SmackDown. Donc ça laisse des affiches pour Extreme Rules. Il se réserve. Ouais, bah on est, bah du coup, forcément, quand le show est bon, on part confiant pour le prochain, ça peut-être tout pourri, mais il y a de quoi faire, comme tu dis, il y avait des rematchs à garder sous le coude là, et puis d'autres affiches à créer, et ça peut être pas mal pour le prochain pay-per-view et les semaines à venir.
On va peut-être être refroidi dès ce soir, hein, si ça se trouve, on va se regarder Raw, on va se prendre la tête et la claquer contre la table, c'est pas possible non plus, les connaissants.
C'est possible. On va voir ce qui se passe, la nouvelle ère post-backlash. Eh bien, écoute, bonne transition, papy. Hein, nous, on en a fini avec cet épisode. Donc, j'espère que ça vous a plu de nous écouter. N'hésitez pas à partager votre opinion sur ce show, si vous avez aimé, si vous avez kiffé, si vous avez trouvé que la fin, c'était trop long, si vous avez trouvé que c'était trop court, pourquoi pas. Dites-le nous, après tout, tout le monde est libre. Si vous adorez Nia Jax, si vous détestez John Morrison, on veut des avis divergents un petit peu là, parce qu'on est tous du même avis, c'est pas bien ça.
On est ouvert à discussion.
Voilà.
Et si jamais vous trouvez Nakamura bon, vous le dites, hein, même si c'est totalement aberrant comme avis, je serai prêt à écouter vos arguments.
Voilà. Ben, en tout cas, il a fait un de ses meilleurs pay-per-views ce soir.
Ah, franchement, il m'a moins dérangé que d'habitude.
Voilà. Voilà un avis sur lequel on peut ouvrir une discussion. Donc, pour tout ça, vous nous écoutez sur PodCloud, Spotify, iTunes. Sur YouTube avec la version vidéo, sur tous ces médias, vous pouvez vous abonner, vous pouvez liker, vous pouvez laisser des petits pouces, des petits cœurs, des petites étoiles, vous pouvez taper la cloche, voilà, ring the bell, n'oubliez pas, hein, on commence pas un combat avant d'avoir ring the bell, règle de base. Pour interagir, vous avez le Discord catch-up, venez nombreux, on est nombreux, donc venez encore plus nombreux. Abonnez-vous, faites partager à vos amis, on a le Facebook, on a le YouTube, donc on a le Instagram, le Twitter, catch-up CDC. Et restez connectés. On a eu le SmackDown avec Papy où on s'est occupé de booker ce backlash. On a bien fait le job puisqu'on a eu un excellent show. Voilà.
Voilà.
Voilà. Maintenant, la suite, eh ben, Monday Night Raw, Friday Night SmackDown. La semaine commence à peine. Moi, je ne serai pas là pour Raw, j'annonce d'avance. Mais.
Oh
voilà, je spoil. Je spoil. Raphaël is not here tonight. Voilà. Mais je suis sûr qu'on trouvera d'excellents chroniqueurs dans l'équipe. Donc. N'hésitez pas à écouter pour
c'est
savoir.
C'est l'avantage d'avoir un grand roster, on est comme la WWE. Hein.
Exactement, on a, comme on dit, on a de la profondeur de banc.
Voilà, a... très bien.
Voilà. Eh ben, merci Papy d'ailleurs d'avoir passé ce moment sur le banc 5 minutes avec moi, ce fut un plaisir de t'avoir à mes côtés.
Allez, on regarde le show qui s'en va, c'était beau. Merci Raphaël pour l'invitation, c'était un moment plaisant à l'image du pay-per-view.
Bah écoute, tu sais que la porte est toujours grande ouverte, il y a du café, tu peux te servir. Et bien merci à tous nos fans, vous êtes de plus en plus nombreux, continuez comme ça, vous êtes les meilleurs.
Oui, continuez, abreuvez-nous d'applaudissements, on aime ça.
Voilà, applaudissez, donnez votre avis, posez vos questions, on sera là, plus vous nous donnez de contenu, plus on sera nourri de réponses à vous donner, de débats, d'aventures, d'émissions, etc. En attendant pour celle-ci, c'est fini, je vous dis donc à très bientôt et très bonne semaine, pleine de catch. Ciao papy, ciao à tous.
Salut à tous, à bientôt les jeunes.